Badania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Skrócia EWEI.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe dans le Donbass. La dernière offensive des séparatistes pro-russes paralyse l'armée ukrainienne, mal équipée, peu entraînée. La pression monte pour armer l'Ukraine, mais les Occidentaux sont divisés. Que faire face à Vladimir Poutine et que cherche au juste le président russe dans cette fuite en avant? Bonjour Michel Elchaninov.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie, vous venez de publier chez Actes Sud Dans la tête de Vladimir Poutine. Comment se met-on dans la tête de Vladimir Poutine?
Alors heureusement, j'ai aucune compétence en psychanalyse, ni en neurochirurgie. Donc, de ce point de vue-là, je me suis pas mis dans la tête. En revanche, j'ai étudié, en fait, j'ai lu ses discours, tous ses discours qu'il a prononcés depuis qu'il est arrivé à la présidence en 2000. Tous ses discours sont disponibles en russe sur le site du Kremlin. Et donc, je suis passé par la tête pour étudier ce qu'il dit et donc pour essayer de remonter à ce qu'il pense ou en tout cas ce qu'il veut faire penser au peuple russe.
C'est un délire absolument passionnant. J'ai lu beaucoup de livres sur la Russie. C'est un des plus passionnants que j'ai lu. Je dis ça comme ça en passant. Alexis Prokofiev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Russie Liberté. Et Russie Liberté, qu'est-ce que c'est?
Russie Liberté est une association indépendante qui se bat pour les droits et les libertés des citoyens russes.
À Kiev, nous rejoignons Constantin Sigov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences sociales à l'Université Moïla de Kiev. Vous êtes aussi le directeur des éditions L'Esprit et la Lettre, des éditions en français, en ukrainien?
Oui, nous publions en ukrainien et en russe. Nous traduisons beaucoup à partir des français. C'est aussi un groupe de recherches et des réflexions depuis 20 ans.
À Moscou, Arnaud Dubien. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Merci d'être en ligne donc de Moscou. Vous dirigez l'Observatoire franco-russe. Qu'est-ce que c'est que cet observatoire franco-russe?
C'est un centre d'analyse, un think tank qui publie de l'expertise sur la France à destination du public russe, mais également sur la Russie. Nous avons notamment publié un rapport annuel, Russie 2014, qui est sorti au Cherche Midi il y a quelques temps.
Arnaud Dubien, vous êtes par ailleurs chercheur associé à l'IRIS. Constantin Sigov, vous êtes universitaire, vous n'êtes pas un militaire, mais j'ai tout de même envie de vous demander comment vous jugez la situation sur le front du Donbass entre Donetsk et Mariupol. L'armée ukrainienne est-elle en train de perdre pied?
Écoutez, la situation est très grave parce que tous les derniers convois en provenance de la Russie ont lourdement armé à la fois déjà l'armée russe présente depuis longtemps sur le sol ukrainien et puis les séparatistes. Et donc on voit que leur équipement progresse, leur agressivité aussi. Ceux qui sont visés, c'est pas seulement l'armée ukrainienne mais aussi les civils, par exemple à Mariupol. Donc on voit qu'au lieu d'arrêter cette escalade militaire, il y a une agressivité, je dirais presque sans précédent depuis plusieurs mois. C'est vraiment le moment même d'agir en conséquence pour nos partenaires occidentaux.
On va y revenir. Alors à l'inverse, Arnaud Dubien, que dit-on à Moscou de cette même situation militaire? Officiellement, l'armée russe, Arnaud Dubien, n'intervient toujours pas en Ukraine.
Oui, je crois que le constat est assez proche sur l'état de l'armée ukrainienne qui a été défaite une première fois à Ilovaïsk au mois d'août. Ça a été un coup extrêmement rude puisque ses meilleures unités ont été décimées. Il y a eu ensuite une défaite militaire et symbolique extrêmement importante en janvier. L'aéroport de Donetsk qui, soit dit en passant, et c'est assez peu connu, c'est la presse ukrainienne qui l'a révélé, aurait dû être rendu aux rebelles. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe à Debaltseve, effectivement, une nouvelle offensive menée par les rebelles, effectivement lourdement armée par les Russes. Pour ce qui est de l'engagement de l'armée russe, il me semble que les informations les plus fiables et les plus équilibrées ont été publiées hier ou avant-hier sur le blog d'un de vos collègues, M. Merchet, source de militaire française qui estime...
Jean-Dominique Merchet.
Voilà, qui estime qu'il y a environ un petit millier de militaires russes sur place, pas d'unité constituée, mais c'est déjà beaucoup trop, évidemment.
Alors, est-ce qu'à Moscou, on se congratule? Je ne parle pas de la presse, mais le pouvoir officiel, est-ce qu'on se congratule, si on dit « ça va dans la bonne direction vu de Moscou »
Alors d'abord, je ne suis venu pas dans la tête de Vladimir Poutine, ni dans son bureau. C'est difficile de dire en réalité. Ce qui est vrai, c'est que la Russie ne s'effondrera pas. En revanche, le pari, me semble-t-il, qui est fait par les autorités, c'est que l'Ukraine s'effondre. Et est-ce que ce pari est faux? Pas nécessairement.
Alexis Prokofiev, je vous demandais de resituer un petit peu. La partie contrôlée par les séparatistes représente quelle part environ du territoire ukrainien? Quelle part de population? L'Ukraine, c'est environ 50 millions d'habitants. Là, on est...
Aujourd'hui, c'est compliqué à dire exactement quelle est la partie contrôlée. Il y a les cartes fournies par l'armée ukrainienne, il y a aussi les cartes fournies par les rebelles. On peut dire que c'est un peu moins de 10%
du territoire
ukrainien, mais en même temps, c'est un territoire très important. C'est des zones qui sont très industrielles. Et puis surtout, l'important, c'est pas forcément l'étendue territoriale, c'est les morts civiles. C'est-à-dire que ce conflit a déjà fait, selon les différentes estimations, plus de 5000 victimes, ce qui est horrible.
10 mois, 11 mois.
Ce qui est vraiment horrible. Moi, j'ai envie de souligner le côté dramatique d'un côté et le côté absurde aussi de cette situation, de cette guerre. Il y a eu les célébrations, enfin, les commémorations plutôt de l'anniversaire de la libération d'Auschwitz. On sait que, au sein de l'armée rouge, les soldats qui ont libéré Auschwitz, c'était aussi bien des Russes que des Ukrainiens et d'autres, bien évidemment. Ils ont combattu, les Russes et les Ukrainiens ont combattu le nazisme ensemble, la barbarie ensemble. Les Russes et les Ukrainiens ont subi aussi les goulags, les répressions staliniennes ensemble. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, entendre ces informations dramatiques qui nous arrivent et aussi nos amis, nos correspondants sur place avec qui on discute pratiquement tous les jours, qui nous donnent des nouvelles très alarmantes sur les enlèvements, sur les disparitions, sur les violations manifestes de droits humains sur le territoire contrôlé par les séparatistes, c'est extrêmement inquiétant.
Alors incontestablement, la guerre s'intensifie en Ukraine. Pour preuve, l'appel aux réservistes. Les rebelles pro-russes veulent mobiliser 100 000 hommes et le gouvernement de Kiev n'est pas en reste. Nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Jerry Philly.
Bonjour.
Dans Courrier International cette semaine, plusieurs articles sur Vladimir Poutine et sur l'Ukraine. Et le papier qui a retenu votre attention raconte les difficultés de l'armée ukrainienne à mobiliser de nouvelles troupes.
Tout à fait, le gouvernement de Kiev a appelé 50 000 hommes de plus sous les drapeaux, mais ça traîne un peu. Le gouvernement a même fait des reproches, entre autres à leurs concitoyens, de leur manque de volonté et qu'ils font tout pour échapper à la mobilisation. Et l'auteur de cet article paru dans Tserkalo Sijinia de Kiev, eh bien, il explique que la réalité est tout à fait différente. D'abord, sur ceux qui sont responsables pour la mobilisation, ce sont les administrations départementales et régionales. Ce sont les commissaires de l'armée dans les régions militaires. Le président, qui est censé bien sûr être le chef suprême des armées, il n'a que confié que la moitié des postes clés pour justement organiser ces mobilisations. Donc, et justement, tout autre problème, c'est que les commissaires chargés par l'armée d'assurer le lien avec les autorités civiles au niveau local, ils se distinguent par un grand degré de corruption et incompétence. S'ajoute un autre problème, la plupart des administrations militaires départementales ne disposent même pas de fichiers électroniques répertoriant les hommes susceptibles d'être appelés. Et il y a un problème structurel aussi, c'est que officiellement l'armée ukrainienne dispose de 1400 unités différentes, mais en réalité moins d'une centaine sont effectivement des unités de combat. Donc, outre les unités pléthoriques et pour la plupart non opérationnelles, il y a tout un obstacle supplémentaire, c'est la qualité et la question de sélection du personnel. Les soldats professionnels motivés se retrouvent contraints de se battre au sein d'unités dépourvues de professionnalisme, peu motivées, parfois même constituées d'ivrognes et de délinquantes. L'auteur remarque à la fin de son article que dans le Donbass se déroule une vraie guerre. Et les unités mal entraînées n'ayant tout simplement pas leur place.
C'est évidemment un article à lire dans le dernier numéro de Courrier International. Constantin Sigoff, quand vous entendez cet article du journal Tserkalo Tijnia, je ne sais pas si je le prononce très bien, vous constatez aussi qu'une fois de plus, l'Ukraine est victime de sa désorganisation et de la corruption du personnel politique.
Ce matin, j'ai lu les analystes russes. Ils disent que de toute manière, le but principal du Kremlin, c'est de déstabiliser Kiev, c'est-à-dire le pouvoir légitime d'Ukraine, pour ne pas buter sur la question à qui ils vont rendre, par exemple, les territoires à l'est d'Ukraine ou la Crimée. C'est ça, en gros, la question. Et tout ce qui peut viser directement ou indirectement par les actes terroristes, par une machine d'une formation de propagande, par différents types d'actions pour déstabiliser le centre politique ukrainien, c'est ça la cible. Ensuite, il est quand même indubitable, et je crois dans la presse en France, j'ai lu plusieurs fois, que en Russie, effectivement, on fait taire ceux qui dénoncent le retour d'Ukraine en Russie des cercueils avec les soldats russes, mais les, par exemple les députés russes, fonctionnaires de l'État russe à Pskov, a publié déjà plusieurs articles, plusieurs photos qui font constat là-dessus. Donc je crois que le moment est appelé chat en chat et dire que l'armée russe est présente dans cette guerre russo-ukrainienne. Et à partir de là, on peut analyser les différents éléments. Donc il faut avoir un cadre qui nous permet d'approcher la réalité.
Alexis Prokopiev, l'armée ukrainienne est mal équipée face aux rebelles pro-russes, en sous-main par Moscou, c'est ce que vient d'expliquer Konstantin Sigov, commandé et entraîné hein, par du personnel russe, ce qui lui donne quand même une supériorité sur le terrain. D'où cet appel des autorités ukrainiennes, donnez-nous des armes. Alors, faut-il armer l'armée ukrainienne ?
C'est une question également difficile. Est-ce que il faut rajouter des armes dans cette zone où il y a déjà beaucoup d'armes? Est-ce que ça ne fera pas plus de victimes? Est-ce que c'est vraiment de plus d'armes qu'a besoin l'armée ukrainienne, ou peut-être de plus d'hommes, peut-être mieux entraînés? En tout cas, nous, la position de l'association Russie Liberté, c'est que on défend la paix, et on pense que c'est très difficile de parvenir à la paix par des armes. Par ailleurs, la France a très bien fait de suspendre sa livraison, la livraison des navires de guerre Mistral à Vladimir Poutine. C'est une décision de François Hollande que nous avons saluée. Donc, il nous paraît également important peut-être de ne pas rajouter du conflit au conflit.
Alors, je vais évidemment poser cette question à Arnaud Dubien, mais je voudrais avoir le point de vue, votre point de vue, Konstantin Sigov. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée ukrainienne a besoin d'armes plus modernes et donc des armes occidentales? On a vu que les Américains sont presque sur le point de livrer les armes, et on a aussi vu que les Européens, François Hollande pour la France, mais aussi Angela Merkel pour l'Allemagne, sont plus, on va dire, beaucoup plus réservés.
Écoutez, je crois que Bernard Guitta a eu raison d'affirmer hier que les plus graves erreurs commises par les Occidentaux étaient de publiquement écarter l'idée de soutenir par les raisons des armes l'Ukraine. Donc le moment de ne plus répéter cette erreur et de dire que non, on ne peut plus ni tolérer ni faire illusion à l'agresseur qu'il peut tout faire, qu'il a des mains libres pour le faire. Et justement, pour la paix, parce que vraiment c'est la chose le plus désirée par toute la population ukrainienne, c'est la paix. Personnellement, je n'appartiens aucunement, entre guillemets, à une partie des guerres. Jamais, loin de cela. Mais pour stopper cette agression, il faut avoir une position adéquate face à l'ours. Et histoire nous dit, depuis Hérodote, qu'il faut effectivement imposer une force à la force, si seul le langage de force est accepté. Je suis d'accord avec mon collègue russe de ne pas livrer, par exemple, des Mistral. C'était une très bonne décision, et ne plus revenir sur cette question, c'est de la sagesse politique. Alors, à l'heure où on est, effectivement, il est question de munir par l'armement nécessaire pour avoir un équilibre qui permettra de stopper ce conflit. Explicitement affirmer qu'on n'est pas dans la position de la faiblesse. Ça veut dire pas seulement en position de la faiblesse d'Ukraine, mais aussi de l'Occident, c'est-à-dire des pays démocratiques face à l'agresseur.
Arnaud Dubien, qu'en dit-on à Moscou sur cette éventualité d'un armement occidental et pour l'instant américain de l'armée ukrainienne ?
À vrai dire, pas grand-chose. On reporte ces choses-là. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas d'unanimité, y compris aux États-Unis, y compris d'ailleurs à la Brookings Institution, dont le président est à l'origine de cette tribune qui fait beaucoup de bruit. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, c'est que le thème des livraisons d'armes est un cri d'alarme. C'est un appel au secours de l'armée ukrainienne qui, vous l'avez dit, est très mal en point et dans une situation, à vrai dire, assez désespérée. Alors, est-ce qu'il faut ou pas livrer les armes? À vrai dire, je n'en sais rien. Il y a des arguments moraux, et puis il y a la politique des États, qui n'est l'intérêt des États, et les États d'ailleurs concernés n'ont pas forcément les mêmes. On voit que la position de la France n'est certainement pas la même que celle des États-Unis ou du Canada, par exemple, pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre. D'un point de vue strictement militaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que c'est trop tard. L'Ukraine aurait dû, et ça, ça date de 1991, se doter d'une armée efficace, ou en tout cas faire en sorte qu'elle ne soit pas en lambeaux comme c'est le cas actuellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis une vingtaine d'années, l'armée ukrainienne a été le parent pauvre des politiques budgétaires de tous les présidents. Certains ont investi dans la police, dans les services secrets, mais pas dans l'armée. L'armée ukrainienne, c'était ce qui restait de l'armée soviétique stationnée sur le territoire ukrainien en 91, non réformée, avec 20 ans de plus pour les matériels. Et avec, vous l'avez dit, un facteur humain extrêmement catastrophique, des officiers pour beaucoup soviétiques, qui d'ailleurs, je pense, pour beaucoup travaillent pour les Russes aussi. On a eu des cas de trahison assez spectaculaires dans cet état-major. Une armée d'appelés...
Peu motivé, hein.
On voit ce qu'on a vu en Tchétchénie en 94. Et donc livrer des armes, indépendamment des arguments moraux que j'entends, ça n'aura aucune efficacité pour l'armée ukrainienne. C'est tout simplement trop tard pour ce qui nous concerne, pour cette fois-ci en tout cas.
Alexis Prokofiev, donc on en reste pour l'heure aux sanctions économiques. Elles ont porté leurs fruits, la situation économique de la Russie est difficile, c'est lié aussi à la baisse du cours du pétrole. Est-ce que ces sanctions économiques peuvent avoir un impact décisif sur Vladimir Poutine ou non ?
Il faut bien faire la distinction entre les bonnes sanctions et les mauvaises sanctions. C'est-à-dire qu'il y a la bonne sanction, la sanction efficace, et heureusement pour l'instant l'Union européenne et les États-Unis ont pris des bonnes sanctions contre le régime de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel des sanctions prises vise l'entourage de Vladimir Poutine, les oligarques qui sont le noyau dur du système économique et politique de Vladimir Poutine, notamment les oligarques qui sont nés, qui ont développé, qui se sont enrichis grâce et avec le pouvoir de Vladimir Poutine. Ça vise aussi les corrompus, ça vise aussi certaines banques. Donc ça, c'est bien. Pour l'instant, la seule sanction qui vise directement la majorité des citoyens russes, c'est l'embargo imposé par Poutine. L'embargo imposé sur les produits alimentaires, on a vu des prix qui ont complètement flambé en Russie, on a vu dans certaines régions le prix du chou qui a augmenté de 160%, alors qu'on sait que le chou est un des aliments de base de la population russe.
Et le chou est en grande partie pourtant produit en Russie.
Oui, mais comme en fait plusieurs produits alimentaires qui étaient importés des pays européens ont disparu, du coup les citoyens russes ordinaires, à part les plus riches bien sûr, et à part sans doute les gens qui sont au Kremlin et les gens qui sont proches du Kremlin, donc les citoyens russes ordinaires sont obligés d'acheter des produits russes, dont par exemple le chou, et donc du coup ça fait monter le prix du chou. C'est une équation économique tout à fait banale. Donc aujourd'hui, les seules sanctions qui visent la majorité des citoyens russes, c'est les sanctions imposées par Poutine lui-même à sa propre population. Donc moi je pense qu'il faut absolument que l'Union européenne et les États-Unis en restent à ce type de sanctions. Par contre, il faut vraiment que ces sanctions soient élargies. Il faut que la liste soit élargie. J'espère que l'Union européenne prendra cette décision rapidement. Et il faut bien sûr que les comptes soient gelés, il faut que les déplacements soient limités, et il faut que ces sanctions soient vraiment appliquées. Parce qu'on sait, on a vu que des oligarques, que des hauts représentants de l'État russe, notamment M. Narychkine qui est sur la liste, qui est le président de la Douma, de l'Assemblée russe, qui peuvent voyager quand même sur le territoire européen. Alors, on nous explique que c'est pour des raisons diplomatiques, etc. Tout ça, ça doit être terminé, les sanctions doivent être appliquées pour être efficaces. L'efficacité de ces sanctions, la première efficacité de cette sanction, c'est de créer du débat au sein de l'élite russe. Et quand on lit des journaux russes, la presse russe notamment, un journal qui est très intéressant qui s'appelle Vedomosti, qui est un journal économique, des milieux économiques, qui interroge, qui fait des interviews très souvent avec des personnalités du milieu économique russe, on voit qu'il y a un débat important en cours au sein de l'élite russe, lié à la crise économique, lié à ces sanctions. Donc on voit que ça, c'est le premier effet, un effet très important de ces décisions prises par l'Union européenne.
Et on peut rappeler que l'économie russe sera en récession de entre 3 et 5% en
la situation est catastrophique.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps des infos, avant de retrouver nos invités. Et dans la deuxième partie de Carrefour de l'Europe, nous essaierons de comprendre ce qui anime Vladimir Poutine dans la guerre larvée qu'il mène en Ukraine. A tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa. The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Dans le Donbass, la dernière offensive des séparatistes pro-russes a paralysé l'armée ukrainienne, mal équipée, peu entraînée. La pression monte pour armer l'Ukraine, mais les Occidentaux sont divisés. Que faire face à Vladimir Poutine et que cherche juste le président russe dans cette fuite en avant? Je vous représente rapidement nos invités. Michel Tchaninov, professeur de philosophie, vient de publier chez Actes Sud Dans la tête de Vladimir Poutine. Alexis Prokopiev, président de l'association Russie Liberté. Constantin Sigov, professeur en sciences sociales à l'université Moïla de Kiev, en ligne de la capitale ukrainienne. Et Arnaud Dubien, en ligne de Moscou, il dirige l'observatoire franco-russe. Les armes ne sont pas les seules à parler en Ukraine. La guerre est aussi médiatique. Extrait de propos entendus sur les télévisions russes et ukrainiennes, rassemblés par Maria Fonso.
La guerre en Ukraine est aussi une guerre des mots et des images. On force le trait de chaque côté. Les médias russes font référence à la Seconde Guerre mondiale. Ils parlent d'antifascisme et développent l'idée d'un monde russe idéalisé en prenant la défense du peuple frère ukrainien. Le gouvernement de Kiev est régulièrement qualifié de terroriste ou de néo-nazi qui persécute le reste de la population civile. Extrait d'un reportage de la chaîne de télévision russe Vesti.
Après une semaine de combats acharnés, les forces populaires ont pris les positions clés de la ville. L'armée ukrainienne s'est mise alors à tirer sur les quartiers d'habitation avec de l'armement lourd. Derrière moi, les gens se pressent dans un couloir humanitaire. Ils ne veulent pas tous quitter la ville. Ils sont sortis de chez eux sous les tirs des balles et le tir des snipers.
L'Ukraine et la Russie s'appuient sur les malheurs de la population pour entretenir leur bataille médiatique. Et les médias ukrainiens tentent de répliquer héros contre héros, ou plutôt terroriste contre terroriste. Extrait d'un reportage de TV Ukraine.
La terre a littéralement vibré sous les pieds des habitants. Les pro-russes ont ouvert le feu sur Svetlarsk et sous les tirs de l'artillerie lourde, les mamans avec leurs enfants montent dans les bus. Les pouvoirs ukrainiens ont décidé d'évacuer la population dès les premiers tirs sur la ville.
On l'entend, les populations civiles sont au cœur du discours médiatique. Alors, pour les médias officiels russes, et presque tous les médias russes sont officiels, le gouvernement de Kiev est dirigé par des fascistes, des terroristes, voire des néo-nazis. Ce n'est pas une rhétorique qui vous surprend, Michel Tchaninov?
Non, en fait, c'est une rhétorique ancienne et qui est très ancrée dans la vie même de Vladimir Poutine. Je vous rappelle qu'il est né en 1952 à Leningrad, anciennement donc Saint-Pétersbourg, et qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans un environnement soviétique. Et même s'il n'a jamais été communiste au sens de marxisme, il partage énormément de valeurs soviétiques qui sont un patriotisme exacerbé, qui sont une vision très militariste de l'existence, c'est-à-dire l'idée suivant laquelle finalement la vie entre les nations, c'est d'abord la guerre, et puis aussi sur l'instrumentalisation de la victoire soviétique en 1945. Dans quelques mois, on va fêter la victoire de 1945 en Russie, ça va être grandiose. Et dans les mois qui vont venir, gageons que les discours sur la primauté de l'Union soviétique et de la Russie dans cette guerre vont enfler en Russie. Poutine disait en 2012, la victoire de l'armée soviétique sur les nazis nous donne un droit moral, le droit d'affirmer haut et fort nos positions. C'est-à-dire qu'il y a une véritable instrumentalisation de la victoire soviétique sur les nazis par le discours poutinien pour expliquer qu'évidemment les fascistes ce sont les autres, et là en l'occurrence c'est le pouvoir de Kiev appelé jeune fasciste de manière évidemment tout à fait idéologique.
Alors on s'est souvent demandé, notamment dans cette émission, qui est et que veut Monsieur Poutine, et pour vous Michel Tchaninov, tout dépend de quel Poutine on parle. Selon quelle période on se situe?
Alors, Poutine, effectivement, est au pouvoir depuis plus de 15 ans, quand même, en Russie. Si on considère que la période Dimitri Medvedev 2008-2012, où Poutine était à la fois Premier ministre et leader national, et quand même faisait partie quand même du pouvoir poutinien, Poutine voudrait être réélu en 2018. Pour rester jusqu'en 2024, il voudra choisir sans doute son successeur qui restera jusqu'en 2030. En gros, Poutine est là depuis longtemps.
C'est un règne.
Ce sera beaucoup plus long que Brejnev, par exemple. Poutine a du temps devant lui, il en a derrière lui, et depuis une quinzaine d'années, peu à peu, se cristallise une idéologie. Une idéologie qui est évidemment composite, qui est composée de sources diverses, tirées d'ailleurs de l'histoire de la pensée russe, d'une certaine culture russe, mais peu à peu, cela se construit, et disons que cela, c'est véritablement métabolisé depuis son retour au pouvoir en 2012. Au début, Poutine voulait passer pour un libéral qui essayait de faire entrer la Russie dans le concert des nations, disons stabiliser le pays.
Construire une Russie moderne.
Construire une Russie standardisée, conforme aux standards mondiaux. Mais de plus en plus, depuis 2004 et surtout depuis 2012, il y a une nouvelle idée qui arrive, une idée impériale, donc qui tire ses sources dans certains auteurs russes, une idée de voie russe d'opposition à l'Occident, de plus en plus affirmée, et enfin un idéal conservateur, l'idée suivant laquelle, finalement, Poutine se voudrait le sauveur de l'Europe. Pour Poutine et ses proches, l'Europe est un continent décadent. L'Europe est pourrie par le libéralisme, est dirigée par des chefs d'État sans envergure. Et Poutine veut réveiller les racines chrétiennes de l'Europe, il le dit de manière très claire depuis 2012-2013, et veut se poser comme le champion européen du conservatisme, c'est-à-dire du retour aux valeurs morales, au patriotisme, à la discipline, etc. Donc, Poutine non seulement développe une idéologie pour mobiliser son peuple, par exemple contre l'Ukraine, ou pour des conquêtes futures, mais aussi pour séduire des citoyens du monde entier, pour séduire des Français, pour séduire des Allemands, pour dire, regardez, en Europe, il y a une solution. C'est l'idéologie que patiemment, depuis une quinzaine d'années, je construis et que j'essaye, moi, de décrire dans mon livre.
Alors, en même temps, c'est une idéologie qui n'a pas de nom. Le poutinisme, c'est pas une idéologie en même temps.
Alors, effectivement, c'est un peu un patchwork. C'est un peu un kaléidoscope. Moi, j'ai essayé de repérer trois grands faisceaux de ce patchwork. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est le conservatisme. Et là, il s'appuie sur des penseurs russes comme Ivan Ilyin ou Konstantin Leontiev, qui expliquent que finalement, il faut vraiment ancrer la morale sur la religion. Il faut vraiment d'abord éduquer le patriotisme chez les enfants. Et c'est donc un conservatisme. Deuxième pilier, ce qu'on appelle en Russie la voie russe, c'est-à-dire l'idée que la Russie devrait pouvoir suivre un développement spécifique, différent de l'Occident, voire en opposition avec l'Occident. Ça, c'est une idée reprise aux slavophiles, notamment à ceux qu'on appelle les néo-slavophiles de la fin du 19e siècle. L'idée suivant laquelle il y a une opposition de structure entre la Russie, continent immense, continent orthodoxe, continent paysan, et l'Europe embourgeoisée, démocratisée. Ça, c'est le deuxième pilier, la voie russe. Enfin, un troisième pilier, le discours eurasiste. Vous savez que Poutine est en train de monter une sorte de concurrent à l'Union européenne qui s'appelle l'Union eurasiatique, qui est entrée en vigueur depuis 2015, une vaste zone de libre-échange entre Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Arménie et d'autres États de la région. Et en fait, cette Union eurasiatique s'appuie aussi sur une philosophie russe des années 20, notamment, qui expliquait que finalement, contre le monde atlantique, contre l'empire de la mer, il y avait un empire de la terre, c'était l'Eurasie, et que Poutine, maintenant, avait vocation à devenir le centre de gravité, le leader de cet énorme continent eurasiatique contre l'empire atlantique.
Alors c'est vrai qu'il faut rappeler la Russie qui s'étale sur 11 fuseaux horaires, hein, c'est la moitié du globe. On peut rappeler aussi, et vous l'expliquez en cette dichotomie toujours chez les Russes entre les slavophiles, ceux qui sont plutôt vers la terre, et puis les occidentalistes qui sont eux plutôt vers l'Europe. Vladimir Poutine a été les deux, il a à un moment de sa vie.
Vladimir Poutine a commencé en faisant mine d'être occidentaliste. Au fond, il ne l'était pas vraiment parce que on se souvient des discours qu'il fait en Europe, où il cite Emmanuel Kant, la paix entre les peuples, la démocratie, l'état de droit. Mais en même temps, dans les années 2000-2004, il allait en Chine et il disait, vous savez, moi, mon partenaire, un de mes partenaires privilégiés, c'est vous. Et il parlait déjà de l'Eurasie. Donc, Poutine a fait mine d'être occidentaliste de 2000 à 2004. Et puis, à partir de 2004, et surtout à partir de 2012, il a vraiment clairement choisi sa voie. Je donne un seul exemple. Lors de son discours qui célèbre la victoire, ce qu'il appelle la victoire de Crimée, c'est-à-dire l'annexion absolument illégale de la presqu'île de Crimée en mars 2014, Poutine dit « Depuis plusieurs siècles, l'Occident cherche à nous isoler, à nous mettre dans un coin. Et l'Occident, en fait, ne supporte pas cette voix russe slavophile que lui voudrait incarner. Donc clairement, maintenant, il a abattu son jeu. Il a été occidentaliste au début. En tout cas, il a fait semblant de l'être. Et maintenant, il est véritablement, clairement slavophile. Et il veut mobiliser son peuple autour de cette idée.
Arnaud Dubien, le Vladimir Poutine que Michel Elchaninov nous a décrit assez longuement, est-ce que c'est aussi celui que vous voyez de votre poste d'observateur à Moscou?
Oui et non. Je suis d'accord sur l'essentiel. Je ne suis pas d'accord sur l'analyse du premier Poutine. 2000-2004, est-ce qu'il fait semblant? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un Poutine 1, je vous renvoie au discours du Bundestag, je vous renvoie à l'après 11 septembre. Mais je pense qu'il y a une inflexion. Une inflexion, ça a été dit, qui est perceptible après Beslan en 2004, qui est nourrie par les révolutions dites de couleur. Il y a un intermède qui est plus intéressant qu'on ne le croit, la présidence Medvedev, et puis ce troisième mandat qui est très différent effectivement des autres, pour plein de raisons. Le fond de l'air est différent à Moscou, l'idéologie, même si je reviendrai, je suis plus prudent, je ne pense pas que Poutine soit un idéologue, est différente, le contexte international est différent. Pour ce qui est de la Deuxième Guerre mondiale, son instrumentalisation, oui, moi je dirais plutôt sacralisation. C'est, il faut bien avoir à l'esprit que dans la Russie post-soviétique, 1945, c'est finalement le seul événement, avec peut-être le 12 avril 61, le premier vol dans l'espace de Gagarine, le seul événement qui fait consensus. Tout le reste déchire. L'interprétation de la période tsariste, la révolution, qu'on appelle parfois maintenant coup d'État bolchevique, le stalinisme, et tout le reste. Donc, outre le fait, malgré tout, il faut le rappeler, que l'Union soviétique a perdu 26 millions d'hommes, y compris, vous l'avez dit, des Ukrainiens, des Biélorusses, des Kazakhs, même des Tchétchènes, c'est mis en avant aussi parce que c'est la seule chose qui unit aujourd'hui les citoyens de Russie, qui sont par ailleurs très désunis. Je crois que c'est une vue de l'esprit de considérer qu'il y a une masse derrière le chef. La société russe, c'était complexe, qui est traversée par des processus complexes. Et le fait de surjouer 1945, ça répond à cette inquiétude de fragmentation de la Russie.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous essayons de savoir, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine avec nos invités Michel Elchaninov, Alexis Prokopiev, Constantin Sigov et Arnaud Dubien. Constantin Sigov, quand vous entendez Michel Elchaninov nous décrire un Vladimir Poutine très ambitieux qui voudrait diriger un peu le monde, en tout cas l'Eurasie, et l'Eurasie vue par Vladimir Poutine, ça comprend évidemment l'Ukraine qui est un pilier de cette Eurasie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'y prend très mal. Et c'est un paradoxe. Comment séduire les Ukrainiens de rejoindre ce concept de l'Eurasie en déployant des forces militaires, même si elles sont un petit peu cachées?
En effet, l'Ukraine a refusé entrer dans cette fantasme eurasique. D'ailleurs, récemment, Biélorussie a refusé aussi, Kazakhstan aussi. Donc, cette utopie politique a tombé déjà en l'eau. Et en fait, la question, c'est précisément, mis à part les différents types de décorations, on voit que c'est surtout la haine à l'Occident qui alimente ce changement, je dirais, des masses. Michel Elchaninov a raison de se concentrer sur la tête de Poutine parce qu'il a réduit précisément les autres têtes de l'entourage politique à silence, souvent à non-pensée, à non-sens. La question est de savoir, est-ce que cette tête-là accepte le dialogue? Nous voyons bien, par exemple, pour prendre un exemple concret, le Parlement européen s'adresser à plusieurs reprises pour libérer Nadia Savchenko, député ukrainien et membre de délégation au Parlement européen. Et donc, normalement, par exemple, un pays tiers en Occident, que ce soit la France et l'Allemagne, pouvait accueillir pour sortir de cette impasse, grève de plus de 50 jours. Et là, je dirais que presque chaque jour et chaque heure est calculé pour la vie de cette personne qui est quand même très clairement dans le dialogue possible ou la rupture du dialogue précisément entre les Poutine et ses partenaires occidentaux. Donc, n'est-ce pas un examen soit de l'écoute, soit d'une surdité épatante qui montre bien qu'il est devant nous pas du tout un conservateur, mais plutôt un cynique qui change les masques.
Michel Elchaninov, vous voulez réagir d'un mot, puis on va entendre Alexis Prokofiev.
Un mot sur, pour répondre à Arnaud Dubien, effectivement, d'abord sur la première période, je suis tout à fait d'accord, ça se discute, il y a des thèses qui s'affrontent sur le sujet, il faut pas quand même oublier que dès 2000, Poutine rétablit l'hymne soviétique comme musique, c'est-à-dire que déjà, il y a des signes qui étaient très perceptibles et qui ont été perçus par les observateurs d'une présidence qui ne serait pas libérale dès le début. Mais c'est vrai que c'est une identité libérale ou non qui se discute au début. Sur le Poutine idéologue, effectivement, Poutine en lui-même n'est pas un idéologue. Poutine préfère le sport. Et puis, quand il a le temps de lire, Poutine lit plutôt de l'histoire ou de la littérature. Donc, il ne faut pas du tout s'imaginer que Poutine est lui-même un idéologue.
C'est un agrégateur d'idées.
Voilà, et c'est surtout un propagateur d'idées. N'oublions pas que le premier contrat du poutinisme entre le peuple et Poutine, c'est que on laisse Poutine gouverner, on laisse interdire l'opposition, museler les médias, et puis il assure une certaine prospérité au peuple. Ce contrat a commencé à se fissurer déjà en 2011, quand il y a eu des protestations contre les élections truquées. Mais aujourd'hui, on est dans un autre contrat. À cause de la crise, le peuple est en train de s'appauvrir. Donc Poutine a besoin de mobiliser le peuple. Arnaud Dubien a raison. Le peuple n'est pas forcément si facilement mobilisable. Pour mobiliser un peuple, ben, il faut des idées. Il faut aller tirer dans une certaine culture russe des idées qui sont chères. Impérialisme, défense de la nation russe, grandeur notamment. Heureusement, il y a beaucoup d'autres choses dans la culture russe qui viennent contrebalancer ces traits-là. Mais je pense que Poutine, pragmatique au départ, est en train de s'enfermer dans une idéologie. Poutine n'est pas un idéologue, mais de plus en plus, il devient prisonnier d'un discours idéologique qu'il a contribué à créer, qu'il énonce en tant que président, et dans lequel il s'enferme de plus en plus.
Alors, Alexis Prokofiev, on a compris qu'il y avait un problème de séduction, et Constantin Sigov nous l'expliquait. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est que Vladimir Poutine ne séduit pas les Ukrainiens, et il devrait, dans le cadre de sa politique, s'il veut construire l'Eurasie, il ne s'y prend très mal. Et ensuite, il a une ambition démesurée, alors que son pays est d'une, comme vient de l'expliquer en quelques mots Michel Tchernyov, d'une très grande fragilité. Alors, c'est encore plus grave avec la baisse du cours du pétrole, mais même sans la baisse du cours du pétrole, la Russie, c'est un pays fragile. Le PIB de la Russie, c'est à peu près celui de l'Italie. Ça remet un peu les choses à un autre niveau.
Vous savez, Poutine ne se dit pas non plus tous les Russes. Loin de là, ce qui a été dit par Michel Tchernyov et puis par les autres intervenants est extrêmement intéressant. Je partage beaucoup de ce qui a été dit. Ce qui est important, c'est que Michel a souligné qu'il y a eu une nouvelle étape, une nouvelle phase de ce redémarrage idéologique, que moi j'appelle fumée idéologique en réalité, à partir de 2012. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2011-2012? Poutine a été contesté, très contesté, dans la rue et aussi dans les urnes. Les sondages ont montré que son parti, Russie Unie, était extrêmement antipopulaire. La majorité de la population russe, 60 ou 70%, quand on leur demandait qu'est-ce que vous pensez du parti Russie Unie, ils disaient c'est un parti des escrocs et des voleurs. Quand même, donc il a vu cette contestation et il y a aussi la réalité derrière le discours idéologique. La réalité, c'est qu'il y a eu une croissance économique importante dans les années 2000, mais malgré cette croissance économique et avec cette croissance économique, il y a eu quand même une corruption qui a explosé, qui est aujourd'hui partout. Il y avait déjà une très forte corruption pendant la période Yeltsin, mais aujourd'hui la corruption, on peut dire en volume, a été multipliée par 3, voire par 4. La corruption est vraiment un problème extrêmement important. Il y a le problème démocratique, c'est-à-dire que toutes les élections, quand même, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, ont été falsifiées, plus ou moins grande ampleur. On estime que l'élection la plus falsifiée, ce sont les élections législatives de décembre 2011 qui ont fait justement sortir dans la rue tous ces citoyens russes. Il y a aussi les problèmes dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, la corruption, le mauvais équipement, le manque de personnel font que il y a des grands problèmes dans la santé. Il y a eu la manifestation, une grande manifestation des médecins, une première en Russie depuis très longtemps. Il y a le problème de la dégradation du niveau de l'éducation. Il y a un problème de la dégradation des services publics, des transports. Donc il y a tous ces problèmes-là que le pouvoir poutinien n'arrive pas à régler. À mon avis, à cause également d'un enrichissement personnel très important, en tout cas des proches de Vladimir Poutine, peut-être de Poutine lui-même, la multiplication des oligarques, des personnes qui ont étudié, des personnes qui sont extrêmement proches de Vladimir Poutine. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, mobiliser la population russe, c'est vrai que l'outil idéologique, l'outil de la propagande et puis la guerre, sont des outils qui marchent. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont marcher longtemps ? La question, c'est quels sont les effets pervers ? Et puis, également, il faut rappeler quelles sont les contreparties idéologiques. C'est-à-dire que quelqu'un comme Dugin, qu'on peut qualifier Alexander Dugin, écrivain, journaliste, conseiller, idéologue de l'Eurasie, on peut facilement qualifier ses idées comme étant d'extrême droite, fasciste, fascisant. Aujourd'hui, il a pris quand même une place assez importante, peut-être malgré la volonté de Vladimir Poutine, on le sait pas. Il y a le personnage qui est le vice-premier ministre russe. On parle souvent en France, des personnalités nationalistes en Ukraine, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de nationalistes dans le gouvernement russe. Vice-premier ministre russe Dmitri Rogozin, fondateur du parti d'extrême droite Rodina, un des créateurs de la marche russe, une marche xénophobe, est aujourd'hui prend aujourd'hui de plus en plus de place, s'exprime dans les médias, agit aussi à l'étranger, on l'a vu en Moldavie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quelles sont les contreparties idéologiques, puis surtout est-ce que la réalité économique, est-ce que la capacité du pays va suivre cet effort quand même de guerre qui est aujourd'hui demandé? Je pense que ça fissure beaucoup aujourd'hui le pays, beaucoup plus qu'on ne le croit.
Je me posais peut-être à Arnaud Dubien, à vous, Michel Chenioff, est-ce que Vladimir Poutine est dans une fuite en avant à travers l'Ukraine? Arnaud Dubien, qu'en pensez-vous?
Peut-être, mais pas sûr. Je veux simplement revenir sur ce qui a été dit précédemment. Bon, je suis tout à fait d'accord sur les élections truquées, sur, à vrai dire, tout ce qui a été dit par M. Prokopiev. Deux choses quand même. Dugin, je sais qu'on... J'ai noté qu'on se focalisait beaucoup sur ce monsieur. Je crois que ça, c'est consécutif à la publication d'un article dans Nouvel Observateur. C'est pas... il n'a pas pignon sur rue, c'est un épouvantail, c'est quelqu'un qui a une idéologie épouvantable, mais c'est pas le confident de Vladimir Poutine. Là aussi, il faut raison garder. Pour ce qui est de... Est-ce que ça se fissure ou pas? Là aussi, il faut toujours, enfin, c'est pas facile d'essayer d'éviter de prendre ses désirs pour des réalités. Il faut rester la tête froide quand on analyse. Je n'ai pas l'impression que ça se fissure. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Tout ce qui a été dit est vrai, l'absence de réforme, du temps perdu, alors qu'il y avait de l'argent. Et en même temps, il y a des débats au sein de l'élite, et j'attire votre attention non pas sur M. Dugin, mais sur M. Primakov, par exemple, qui a publié un article, en tout cas qui a prononcé une allocution, qui a fait beaucoup de bruit, parce que ça venait de Primakov aussi, de quelqu'un de crédible. Mais le pays ne va pas s'effondrer, et le régime ne va pas s'effondrer, ni dans 6 mois, ni dans 1 an, ni dans 2 ans. Et il faut l'avoir à l'esprit. On n'aime pas. C'est une réalité, en tout cas, que nos planificateurs en France, au Quai d'Orsay ou ailleurs, doivent tenir compte, et je sais qu'ils le font.
Michel Jalinov, sur cette notion de fuite en avant, jusqu'où peut aller Vladimir Poutine dans la montée en puissance, hein, si on l'évoquait dans la première partie de cette émission, si l'Ukraine est un peu plus armée, si les Occidentaux soutiennent l'Ukraine plus fortement, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Vladimir Poutine?
Je crois que comme je l'ai dit tout à l'heure, Poutine est maintenant un peu enfermé dans son discours, dans les passions, dans l'hystérie parfois qu'il a soulevé lors de l'annexion de la Crimée. Je pense aussi qu'effectivement il a un projet à long terme, qu'il n'a pas du tout l'intention de quitter le pouvoir, même si les plus libéraux de son entourage, et ça c'est effectivement vu dans la presse russe et aussi dans la presse occidentale, qui cite des experts, s'éloignent du noyau dur qui lui devient de plus en plus nationaliste. La difficulté et le problème pour moi, c'est que Poutine, grâce à ces signaux idéologiques qu'il a lancés depuis des années, a plusieurs touches devant lui. Elles sont pas toutes militaires d'ailleurs, mais il peut à un moment appuyer sur les russophones des pays baltes, de Lettonie par exemple. Il peut à un moment essayer d'appuyer sur les russophones du Kazakhstan. Il peut faire jouer la solidarité orthodoxe avec un pays européen comme la Grèce.
Ou la Serbie.
Il peut appuyer sur le panslavisme, l'idée qu'il y a des frères slaves en Bulgarie. C'est-à-dire que Poutine, de plus en plus, à travers son discours bien sûr, a développé une gamme d'impérialisme possible, pas tous militaires, mais sur lesquels il peut jouer. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que comme il est enfermé de plus en plus dans cette doctrine, il va, dans les années qui viennent, notamment pour être réélu en 2018, essayer de mobiliser le peuple en jouant sur cette fibre-là qui est évidemment totalement néfaste, d'abord pour le peuple russe.
Alors, dans votre livre, vous expliquez plein de choses. notamment celle-ci, une idée sur laquelle Vladimir Poutine s'appuie, c'est que on ne nous aime pas. Les Russes, on ne nous aime pas. La Russie, on ne nous aime pas. Tout le monde est contre nous. Alors, cette idée que la Russie puisse être encerclée, évidemment, quand on prend une carte du monde, ça paraît un peu surprenant, mais c'est aussi une réalité.
Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est comme ça que l'interprètent beaucoup de personnes en disant l'OTAN entoure la Russie ou par exemple la Pologne n'a pas invité Poutine aux commémorations d'Auschwitz. Alors en fait, aux commémorations d'Auschwitz, tout le monde était non invité, donc tous les chefs d'État étaient invités. Poutine a organisé son auto-exclusion pour justement un peu caresser cette paranoïa et cet affect d'humiliation. On ne nous aime pas. On ne nous aime pas, on veut nous entourer. C'est typiquement un ressort néo-slavophile sur lequel il essaye de jouer. Moi, je rappellerai juste tout de même que c'est pas l'OTAN qui s'est emparé de la Lettonie. C'est le peuple letton qui, en 2004, a voulu adhérer de manière totalement démocratique à l'OTAN et à l'Union européenne. Donc, je pense qu'évidemment, on peut avoir des raisonnements géopolitiques qui sont tout à fait légitimes. Mais la géopolitique s'arrête là où commence la démocratie et là où un peuple, par exemple, décide de se libérer un peu de la tutelle russe qui a été si longue et parfois si tragique et de se tourner vers les pays européens. Donc je pense qu'il faut là encore relativiser ce fait et avoir bien à l'esprit que Vladimir Poutine véritablement exacerbe ce sentiment d'encerclement et d'humiliation pour justement réunir son peuple autour de lui.
Merci à tous les quatre. Michel Chenioff, je rappelle le titre de votre livre absolument passionnant, Dans la tête de Vladimir Poutine, aux éditions Sud. Merci à Alexis Prokopiev, Constantin Sigoff et Arnaud Dubien. Réalisation de cette émission, Guillaume Muni, avec la complicité de Juliette Sauce. Sur la page de l'émission via RFI.fr, les applis mobiles et tablettes RFI, plein de choses vous attendent. Sans oublier, bien sûr, les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Lesescal, où que vous soyez, à Kiev, Moscou, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.